Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour Ça se dispute. Un thème ce soir, la France au bord de la crise de nerfs, crise sociale avec comme préoccupation majeure l'inflation et le pouvoir d'achat. C'était tout l'enjeu d'ailleurs de cette mobilisation à Paris et cette marche contre la vie chère, marche émaillée de tensions, on va en parler dans un instant. Bras de fer syndical, vous l'avez compris, la CGT qui poursuit la grève dans les raffineries et ça se tend encore un peu plus dans les stations-service et crise politique. Et le spectre du 49-3 explosif, 49-3 à l'Assemblée nationale, la majorité et le gouvernement vont-ils sortir indemnes de cette turbulence, cette zone de turbulence? On en parle avec vous, Geoffroy Lejeune, directeur de la rédaction de Valeurs Actuelles. Bonsoir Geoffroy et Julien Drey. Merci Bonsoir. D'être avec nous, cher Julien. Le point sur l'information et puis on fait un récap de tout ce qui s'est passé cet après-midi et cette marche contre la vie chère et l'inaction climatique. Le point sur l'info.
Deux ans jour pour jour après l'assassinat de Samuel Paty, Conflans-Sainte-Honorine lui rend hommage ce dimanche. Le 16 octobre 2020, ce professeur d'histoire-géographie était tué dans cette commune des Yvelines par un jeune radicalisé. Un autre hommage lui a été rendu ce matin dans la ville où il vivait à Éragny-sur-Oise. 30 000 personnes dans les rues de Paris ce dimanche selon la police, 140 000 selon les organisateurs. Depuis 14h30, la gauche défile contre la vie chère, répondant à l'appel de la France insoumise, du Parti socialiste et d'Europe Écologie Les Verts. Une manifestation sous tension, plusieurs incidents sont à déplorer en marge du rassemblement. Quatre personnes toujours en garde à vue après la découverte vendredi soir du corps d'une adolescente à Paris. Parmi elles, la femme aperçue sur les images de vidéosurveillance. Selon l'autopsie, la victime est morte asphyxiée. Les enquêteurs ont trouvé du scotch, une arme blanche et des traces de sang au sous-sol de l'immeuble où elle vivait dans le 19e. Et puis le Real Madrid rafle le Classico ce dimanche à la veille d'un ballon d'or qui lui tend les bras. Karim Benzema a hissé le Real Madrid vers un succès 3-1 face au FC Barcelone lors du 250e Classico de l'histoire. Benzema qui a ouvert le score dès la 12e minute à la reprise d'une frappe de Vinicius. Les autres buts sont signés Vinicius et Valverde pour le Real et Torres pour le Barça.
Grosse journée foot hein, aujourd'hui. Vous aviez Real Barça, Manchester City, Liverpool à suivre sur Canal+.
Enfin, il est très au courant.
Et le est toujours au courant, notamment du football. Je sais qu'avant
et PSG Marseille.
Le match et PSG Marseille, surtout, le Classico.
Et surtout, ça prépare le Ballon d'Or.
Ah, le boy, c'est, il est donné. Ah, le
comment
ballon
ça, il est donné
d'or. Bah, vous savez qui va l'avoir. Vous ne savez pas.
Non, moi je fais attention parce que.
Ah, mais alors là, je veux bien faire tous les paris, mais sinon. Alors là, si Karim Benzema n'a pas le ballon d'or, je vous assure, je mets la cravate sur la tête vendredi prochain.
On écoute.
Ok, c'est, de toute façon, c'est enregistré. On va revenir longuement, si vous me permettez, sur l'enjeu politique de cette manifestation ce dimanche et la marche, l'initiative de la NUPES contre la vie chère et l'inaction climatique. Mobilisation une nouvelle fois. C'est ça le problème. Et je veux vraiment qu'on traite d'abord ça, les tensions. C'est juste quelques images. Vous aviez 2000 policiers qui ont sécurisé la mobilisation et vous avez eu des tensions en marge de cette manifestation avec du mobilier urbain saccagé et des policiers pris à partie. Retour en images sur ce dimanche sous tension et on en parle juste après. Ça aurait pu être bien pire, hein. Et les forces de l'ordre ont fait un travail admirable. Pourquoi ? Parce qu'il y avait plusieurs centaines de casseurs qui étaient présents dans cette manifestation. Ce sont des images qu'on voit régulièrement sur les mobilisations. Ça devient insupportable, Geoffroy Lejeune.
Ben, c'est même pas régulièrement, c'est à chaque fois en réalité. Sur les manifestations de ce type, c'est à chaque fois. Maintenant, c'est même le 1er mai tous les ans. Je ne sais pas quoi dire de très original, à part que c'est insupportable, sinon de dire que la raison pour laquelle dans ces manifestations, en tout cas dans celles de Mélenchon ou celles où les syndicats sont présents, pourquoi ça arrive à chaque fois, c'est que je pense qu'il y a une continuité. J'essaye de faire l'amalgame, en fait, alors qu'on dit toujours pas d'amalgame, moi j'essaie de faire l'amalgame entre les revendications des manifestants et des chefs des manifestants et ces gens qui, en fait, au fond, sont dans un combat anticapitaliste, anti-système, etc. Et il y a une complaisance de la part des premiers envers les seconds, alors que ce qu'ils font est injustifiable. Par ailleurs, une réponse qui n'est pas suffisante, c'est on a toujours le débat, oui, on pourrait les identifier avant les manifestations, les sortir, etc.
On parlait de foot juste avant, on a fait ça avec les hooligans dans les stades, on pourrait très bien le faire pour les antifas dans les manifestations.
C'est vrai, sur la partie ordre public, c'est vrai. Maintenant, moi, ce qui me fascine, c'est la complaisance, en fait, d'une certaine partie de la gauche avec ces gens qui, en fait, au nom du fait que leur combat est juste, est capable de légitimer, et ça arrive régulièrement, leur mode d'action. C'est ça qui me choque. Et j'estime qu'on devrait demander des comptes, en fait, en l'espèce, à Mélenchon, la France Insoumise, en leur demandant, premièrement, de se désolidariser, ce qu'ils font pas suffisamment, deuxièmement, de condamner, ce qu'ils font aussi à demi-mot à chaque fois, et pour sinon leur faire porter une accusation. C'est, pour moi, ils sont très complaisants. Mais en fait, je peux même étayer ça. Il y a eu des moments, on a créé, pendant la précédente mandature, une commission d'enquête parlementaire sur les violences d'extrême droite. On n'a pas voulu mettre les antifas dedans. Pendant des années, des députés de l'UMP à l'époque voulaient qu'on enquête sur ces organisations. Le Parlement ne voulait pas. Il y a une forme de complaisance. On s'est habitué à ça. On trouve ça normal. Et presque un peu sympathique, c'est pas vrai, c'est pas le cas.
Julien Drey, amalgame ou pas ?
Bon, d'abord, il faut noter qu'il y a quand même un peu de monde cette manifestation.
On va y venir dans un instant.
Voilà, je pense que c'est quand même la première information
bien sûr.
Importante. On parlait même d'un échec il y a quelques jours, il y avait des grosses inquiétudes. Bon, du monde, c'est pas la déferlante que les organisateurs annoncent, mais il y avait quand même du monde à la manifestation et ça doit être noté et respecté. Après, là, vous savez, Geoffroy, j'ai ce petit avantage, c'est pas un avantage d'ailleurs, c'est un inconvénient pour moi d'être un peu plus vieux bout. Donc des provocateurs dans les manifestations, moi j'en ai connu
oui, je
depuis
sais bien.
La nuit des temps, des groupes, on les appelait en temps les autonomes, les casseurs, voilà. C'est très difficile à maîtriser. Moi, j'ai trouvé au début, en tous les cas, de ce que j'ai suivi, j'ai trouvé que le dispositif policier était plutôt intelligent
oui.
Et était plutôt bien fait. Il n'était pas provocateur.
Non.
Comme ça a pu l'être des
fois. Ça aurait pu être bien pire, c'est ce que j'ai dit. Hein,
comme ça a pu l'être des fois. Il y avait des fouilles au début sur toute la place. Mm-hmm. Les manifestants, visiblement, de se plier pour la plupart correctement à ces fouilles pour éviter. Alors après, il y a eu un groupe qui s'est mobilisé dans la manifestation, qui a surgi en deuxième partie de manifestation, qui s'est constituée. Et c'est difficile à gérer parce que soit les policiers interviennent, et c'est toute la manifestation qui est prise en otage et qui dégénère, soit ils n'interviennent pas, et c'est vrai qu'ils subissent à ce moment-là l'agression d'un certain nombre d'individus. Alors, on peut faire toutes les commissions d'enquête qu'on veut. C'est la difficulté de cette mouvance, c'est justement, c'est le terme. C'est une mouvance. Mmh. Ce ne sont pas des organisations structurées qu'on peut repérer, etc.
Vous ne voyez pas qu'ils ne sont pas déjà connus, qu'ils font ça à chaque
fois. Il y a, mais c'est pas.
Que la moitié, on pourrait leur dire, vous ne sortez pas de chez vous le jour d'une manifestation.
Honnêtement,
ouais.
Cette manifestation,
ouais.
Je sais que la préfecture l'a fait.
C'est ah, bah alors, bravo au préfet.
Elle a pris en amont les choses, c'est pour ça que ça n'a pas. C'était qu'un petit.
C'est vrai.
Ça pas du tout, c'est pas les mêmes. Bon là, c'est très violent contre les policiers d'ailleurs.
Oui, vous voyez c'est pour ça que c'est sainte et des policiers
voilà.
Visés.
Voilà. Donc, alors après sur la complaisance, bon, Geoffroy, vous allez vite quoi. Je veux dire, ça les arrange pas non plus. Quel est l'intérêt d'avoir, au contraire, eux, ce qu'ils auraient aimé les organisateurs, c'est d'avoir les images de la manifestation, de montrer qu'ils avaient réussi et pas cette provocation. Au contraire, ces gens-là jouent contre leur camp.
Non, en fait, vous avez
ils
raison.
Contre des milliers de gens qui sont descendus dans la rue. Et c'est en ce sens-là, pour moi, ils ont rien à voir avec nous.
Vous avez raison.
Avec la gauche.
Vous avez raison, ça les arrange pas, mais ça ne les dérange pas non plus. Et moi, c'est ça qui me
choque. Oui, ça les dérange parce que.
Non, bah attendez.
Je n'ai pas vu une condamnation sur Twitter.
Il va arriver.
Ça va arriver. Ça va arriver. Mezzo voce, c'est-à-dire qu'ils vont le faire. Non, mais ils vont
le faire. Je le fais à leur place, voilà.
Mais non, mais venez
j'ai pas.
Pas
le droit de le faire, mais je le fais quand même.
La semaine dernière, Jean-Luc Mélenchon a pris prétexte de l'intrusion d'une dizaine ou quinzaine de militants de l'Action française dans un jardin municipal de la mairie de Stein pour dire la violence réelle est d'extrême droite. Les mecs étaient là avec des pancartes, des slogans, etc. Il n'y a personne qui a été frappé. Bon, bah lui, dans ses manifestations, il y a systématiquement des casseurs, systématiquement des McDo ou des banques qui se font défoncer, et ça ne le dérange pas. Voilà, c'est tout. C'est tout ce que je dis. Et il devrait y avoir sur lui la même opprobre qui pèse sur les gens qui sont dans des manifestations avec des casseurs d'extrême droite.
Non, on ne va pas jeter l'opprobre sur Mélenchon. On peut.
Ah bah si.
Des accords politiques, mais.
Ah non, mais c'est ce que je fais.
Vous n'allez pas jeter l'opprobre sur. C'est pas lui qui est responsable, c'est pas lui qui organise. Bon, alors après que parce que il a une influence dans une partie de la jeunesse et qu'il a le sentiment qu'il y a une forme de radicalité, etc. Si tel est le cas, mais il faudra avoir le débat avec lui, ce serait une erreur. Mmh. Moi, je pense que c'est une erreur. Et en tous les cas, je sais, je peux vous le dire, que quand on a, parce que vous le savez, on a travaillé ensemble, ces gens-là, ils nous aimaient pas. Mmh. Voilà. Et ils nous aimaient pas parce que justement, on les dénonçait comme étant des provocateurs qui faisaient le jeu de nos adversaires politiques et qui nous servaient pas, qui servaient pas la cause.
Je pense qu'ils vous aiment pas vous, mais lui, il l'aime beaucoup plus maintenant.
Vous avez dit du monde.
Si tel est le cas, mais il faut lui poser la question, moi, j'ai pas parlé avec lui depuis longtemps.
Bon. Eh bien, avançons. Vous avez dit qu'il y avait du monde cet après-midi, et c'est vrai. 140 000 manifestants selon les organisateurs, 30 000 selon la préfecture de police, Jean-Luc Mélenchon. Est-ce qu'il a réussi son pari? Est-ce qu'il a réussi cette marche sur le fond et la forme? Il a pris la parole, vous l'avez peut-être entendu, il a été même ovationné. Il a eu des mots assez intéressants en disant, finalement, le chaos en ce moment, c'est la Macronie, l'ordre, c'est nous. Écoutons.
Cette France est dans le chaos, non de votre fête, mais du leur. Ou pour finir, quand les profits, la privatisation et le marché ont le dernier mot sur tout, alors vous avez une école qui ne marche plus que qu'à un quart, alors vous avez des crèches qui fonctionnent qu'à un quart, alors vous avez des hôpitaux en crise, alors vous avez des trains bondés qui n'arrivent ni ne partent à l'heure. C'est le chaos, la Macronie, et nous incarnons, parce que nous sommes... Le peuple qui sait, qui est instruit, qui a des métiers, l'ordre, c'est nous.
Le chaos, Macronie, l'ordre, c'est nous. Il a raison ou pas, Geoffroy Lejeune?
Non, moi je pense qu'il a évidemment tort. C'est un peu le débat qu'on avait vendredi soir. Est-ce que le responsable du chaos, c'est celui qui bloque la raffinerie, ou est-ce que c'est le patron qui a pas voulu donner d'augmentation? Moi je sais où j'habite, c'est celui qui bloque, c'est pas celui qui a pas.
Donc vous habitez avec le patron de la raffinerie?
Oui, attendez, c'est pas ça.
Ça, c'est une information que vous me donnez.
En revanche, là où il a réussi son coup, Mélenchon, je trouve qu'il a même réussi son coup à double titre. Premièrement, qu'il y a eu 30 000 ou 140 000 personnes, c'est une manifestation réussie, ça fait du monde.
30 000, c'est source policière, hein, j'ai dit préfecture, mais c'est source policière.
La vérité est entre les deux, soit l'un a raison, soit l'autre, soit c'est entre les deux. Ça reste beaucoup de monde, 30 000 personnes à Paris, un week-end comme ça, où en plus on peut pas trop circuler. Non, faut pas négliger ça. Donc il a réussi ça, après, surtout dans un contexte politique qui était quand même désastreux pour la France insoumise, entre les histoires de gifles et les divisions internes à la NUPES et tout. Donc ça, il faut quand même reconnaître que c'est une base militante qui n'a pas disparu. Et il a réussi autre chose de beaucoup plus pernicieux selon moi, c'est-à-dire qu'il a réussi à... incarner aujourd'hui le combat contre la vie chère, qui est un combat qui concerne 100% des Français. Et aujourd'hui, il a laissé, on lui a laissé le terrain seul pour venir incarner cette espèce d'opposition à l'inflation et à la politique du gouvernement. Et là, pour le coup, je pense que là où c'est pernicieux et là où il a été malin, c'est que en réalité, il y a beaucoup de gens qui ne se retrouvent pas du tout ni dans son combat, ni dans ses solutions, ni même dans ses diagnostics, qui aujourd'hui sont énervés pour les mêmes raisons. Et donc, il fait du combat culturel et potentiellement, il peut s'adresser à un grand nombre de personnes en ayant pris ce thème. C'est malin de sa part.
Ça veut dire que ceux avec qui vous habitez, si j'ai bien compris, ont donné la matière à permettre à Mélenchon de remonter sur le cheval.
Donc vous devriez, prévu avant quand même.
Donc vous devriez leur dire qu'ils sont quand même pas, ils sont pas très habiles.
Mais la manif, elle était prévue depuis bien plus longtemps.
Oui, mais justement, regardez, vous avez vu comme moi, dans les deux dernières semaines, y compris les députés de la NUPES, dans les assemblées, à l'Assemblée nationale et tout, étaient inquiets, les cartes se remplissaient pas comme ils l'espéraient, et certains prédisaient même presque un échec. Donc ça veut dire que s'il arrive à faire ça, c'est qu'on lui a donné la possibilité. Il a le talent de Jean-Luc Mélenchon, mais ça veut dire qu'il y a des causes qui justifient ça. Et donc c'est sur les causes qui justifient cela qu'il faut intervenir les causes, c'est effectivement... Moi, je pense notamment, dans les deux dernières semaines, la manière dont la direction de Total s'est comportée à l'égard de ses salariés, la manière dont elle a essayé de diviser les salariés en privilégiés contre d'autres, le gouvernement qui s'est enfermé dans un déni de réalité.
Vous croyez à la conjonction des luttes ? C'est-à-dire que là, il y avait le calendrier politique, cette marche qui était prévue depuis le mois de juillet, et finalement ces tensions avec...
Non, elle n'était pas prévue depuis le mois de juillet.
Ah si, la marche, il l'a annoncée, ça fait des semaines qu'il l'annonce.
Oui, parce qu'ils ont un... Bon.
Mais vous avez des infos. Mais je me demande, au bout d'un moment, vous êtes à la NUPES
ou pas? Non, mais je veux dire...
Dites la vérité, donnez-nous l'info.
Non, mais c'est
on sait que maintenant, il est avec le patron de
chez... je suis pas... Alors que c'est pas un secret. Je pense d'ailleurs... Je crois à une gauche réformiste.
Oui.
Et je crois à une gauche réformiste, laïque, républicaine, je vous le dis assez souvent, etc. Donc je ne me retrouve pas dans la plateforme de la NUPES, mais je crois au fait qu'à un moment donné ou à un autre, il faudra faire le rassemblement de la gauche, sous l'hégémonie, d'après moi, de la gauche réformiste, si on veut un jour gagner majoritairement et changer les choses dans ce pays, et pas sous l'hégémonie de la radicalité. Mais j'ai pas une hostilité. Mon ennemi s'appelle pas Jean-Luc Mélenchon.
Jean-Luc Mélenchon, on continue, la secousse va aller en profondeur, et vous allez décrypter tout cela, Geoffroy Lejeune.
Beaucoup de choses vont se passer, parce que l'indéniable succès de cette marche donne du courage, donne donc envie d'agir, de se mobiliser. Et la secousse va aller en profondeur dans les institutions, puisque le 49-3 va être déployé, et que les Français, tout d'un coup, vont voir qu'il y a un rapport entre la brutalisation sociale du pays et sa brutalisation institutionnelle et démocratique. Tout ça va faire un tout.
Vous y croyez à ça ? Ça va faire un tout ?
Quand j'entends, j'y crois pas, je vais vous expliquer pourquoi. Quand j'entends Jean-Luc Mélenchon parler de crise institutionnelle avec Raquel Garrido pas loin, je prends toujours un peu peur. Parce que les solutions, la 6ème République, etc., vraiment sont délirantes. Mais bon, c'est un autre sujet.
La 6ème République, ça dépend laquelle. C'est pas forcément délirant.
Je parle de celle de Jean-Luc Mélenchon et surtout de Raquel Garrido, qui a été la théoricienne, qui a écrit un livre là-dessus en 2014 ou 15.
La 6ème République, c'est pas délirant. Surtout quand on voit comment fonctionne.
Laissez-le terminer, Julien Drey.
Grand débat. Moi, c'est ma passion, les institutions. On peut l'avoir à un autre moment. Non. Je vais expliquer pourquoi ce qu'il est en train de faire, pourquoi ça me dérange. En fait, ils sont, pour schématiser, ils sont en train d'essayer de faire ce qu'ils ont fait au moment des Gilets jaunes. C'est-à-dire que les Gilets jaunes, il y a une colère et une manifestation de cette colère qui est spontanée, qui échappe absolument à tout le monde, tous les partis, tous les syndicats, toutes les organisations, etc. C'est d'ailleurs probablement une des conséquences de l'absence de corps intermédiaires. Ouais, j'avais perdu le terme, de corps intermédiaires, et qui se manifeste tout à coup. C'est peut-être 40 ans de colère rentrée qui tout à coup se manifeste sur des ronds-points et qui échappe à tout le monde. Et c'est un mouvement que moi j'ai trouvé magnifique, en plus sur les ronds-points, etc. Qui était provincial, qui était enraciné en réalité partout en France, et qui a été saccagé par ces gens, par Mélenchon et par ses amis, saccagés. Parce qu'ils y ont tout à coup collé leurs propres aspirations. Donc, c'est pour ça que je parlais de Garrido. Elle a expliqué que les Gilets jaunes voulaient la 6ème République. Mélenchon a expliqué que les Gilets jaunes voulaient son programme politique. C'était pas du tout le cas. C'était un mouvement très compliqué à comprendre et je pense que personne, d'ailleurs, ne pouvait vraiment ni le récupérer, ni se l'accaparer. Ils l'ont saccagé parce que, premièrement, ils ont laissé leurs amis Antifa venir le dénaturer ce mouvement à Paris en cassant les vitrines, etc. Et tout le monde a fait l'amalgame. Et deuxièmement, ils ont collé leurs aspirations d'extrême gauche révolutionnaire sur des revendications de Français qui étaient vachement moins idéologiques et surtout qui étaient beaucoup moins à gauche que ça. Et là, aujourd'hui, il y a une grande colère dans le pays sur les questions de pouvoir d'achat, d'inflation, etc. On l'a vu notamment la présidentielle l'a montré et même ce qui s'est passé depuis le montre. Et ils sont en train d'essayer de faire la même chose, c'est-à-dire de récupérer ça pour... et donc c'est le souhait de Mélenchon, la coagulation, c'est un tout, etc. En fait, il a raison. Tous les politiques devraient faire ça. Sauf qu'aujourd'hui, il n'y a plus que lui qui le fait. Moi, c'est ça que je trouve dangereux. Et que, à force d'être le seul à essayer d'aller récupérer les gens sur ce genre de créneau, je pèse mes mots. Je pense que Mélenchon peut y arriver.
Allez-y, Julien.
Bon, le mouvement des Gilets jaunes n'était pas de la même nature que les manifestations actuelles.
Vous avez raison.
Les publics n'étaient pas les mêmes. Parce que, d'ailleurs, souvent, dans les manifestations des Gilets jaunes, en tous les cas, pour tous celles qui vont jusqu'à, grosso modo, fin janvier, la plupart de ceux qui sont là et de celles qui sont là disent eux-mêmes qu'ils n'en sont jamais venus en manifestation et que c'est souvent leur première manifestation. C'est un mouvement de travailleurs indépendants, c'est un mouvement... On a dit ça, c'est un mouvement petit blanc, c'est un terme désagréable et faux, mais c'est un mouvement de petits salariés, de commerçants, d'artisans, qui ne sont pas dans l'action sociale, qui jusqu'à maintenant n'étaient pas dans l'action sociale, mais étaient en train d'essayer de compter 19 sous 20 sous pour s'en sortir et qui en avaient assez, à juste titre d'ailleurs, d'abord de l'essence, comme par hasard, et puis après les taxes.
Oui.
Et là, voilà. Mais c'est un public qui est important et qui, dans le cadre de la constitution d'une majorité sociale pour gagner une élection présidentielle, compte et doit compter pour la gauche. Parce que sinon, ce public-là, ben, il file, il en a marre, il veut l'ordre et il peut filer vers d'autres solutions politiques. Et c'est là où, d'après moi, on n'a pas la même analyse, mais visiblement, on n'a pas vécu les mêmes choses. Parce que je trouve que moi, j'aime pas qu'on me raconte, j'aime bien aller voir. Donc j'ai été voir, on me l'a reproché, j'ai pas revendiqué quoi que ce soit, mais j'ai été parce que je voulais discuter avec ces gens qui, pour une part, je ne l'avais jamais vu encore dans la rue. Donc j'ai pris ce temps-là.
France silencieuse.
Voilà. J'ai pris ce temps-là, c'était pas forcément toujours facile, parce que souvent on me disait, ouais, vous nous avez déçus, parce qu'il y en avait beaucoup qui me disaient, vous nous avez déçus, Hollande, machin, etc. et tout. Bon, mais j'ai pu discuter, j'ai pas la prétention d'être le seul. Voilà. Moi, je pense que justement, l'erreur qui a été commise par toute une partie de la gauche et des organisations syndicales, c'est que dès le début, ils auraient dû être aux côtés de ces salariés, sur les ronds-points. Et d'ailleurs, ça leur aurait permis d'éviter, une première chose, les violences qu'il y a eu. Et quand même le nombre de blessés graves et de gens qui ont perdu des yeux, des mains, etc. Parce que ces gens-là, n'ayant pas l'expérience sociale, ne savaient pas organiser une manifestation, faire un service d'ordre, se protéger un minimum, marginaliser, etc. Et tout. Donc ils y allaient, ils comprenaient rien d'ailleurs. Hein. Souvent, voilà. Donc premièrement. Deuxièmement, ils n'ont pas été capables d'arriver à faire une plateforme revendicative, à élire des représentants qui puissent discuter pour obtenir satisfaction. Et la gauche, elle aurait pu apporter cette expérience-là. Elle ne l'a pas fait. Alors elle ne l'a pas fait pourquoi ? Parce que justement, à l'inverse de ce que vous racontez, au départ, elle a pensé que ces gens-là étaient manipulés par l'extrême droite. Et comme il y avait des groupuscules, notamment les identitaires, dans l'affaire de l'Arc de Triomphe, notamment, hein, je les ai vus, moi, ils se constituaient, on est chez nous, avec les t-shirts, etc. Elle a eu peur, elle dit non, elle disait, je me rappelle la discussion que j'ai eue, à l'époque j'étais encore au bureau national du parti, je leur disais, vous vous trompez, c'est pas un mouvement d'extrême droite, arrêtez cela, et ils sont passés à côté de quelque chose. Alors après, sur la convergence des luttes. Vous savez, c'est vieux comme le monde, cette histoire. Dès que ça bouge, on se demande. Je ne sais pas, la convergence des luttes, personne ne peut la prévoir. Ce qui est certain, voilà, il y a des choses sur lesquelles on est certain, il y en a d'autres, c'est aléatoire, c'est que le climat est devenu mauvais, le climat social est devenu mauvais en France. Pourquoi ? Parce qu'il y a une élection présidentielle et qu'elle n'a pas impulsé quelque chose de nouveau dans le pays. Et qu'il y a une déception qui s'est installée. Il y a une partie d'électeurs de Macron qui ont voté Macron par défaut.
Par défaut.
Il y a par ailleurs, après, des choses qui sont arrivées qui n'étaient pas prévisibles. On peut lui mettre tout sur le dos. Franchement, une inflation qui est... Vous allez maintenant dans un supermarché, vous vous rendez compte que ça va plus. Un pouvoir d'achat qui baisse. Donc il y a des causes réelles. Voilà. Donc maintenant, la question, elle est simple. Les politiques ne peuvent pas récupérer un mouvement social. Et c'est une erreur. Et quand on fait ça, en général, on se fait toujours prendre la main dans le pot de confiture. Les gens disent, vous êtes des récupérateurs.
Eh bien, justement.
Mais par contre, les politiques,
cette séquence.
Leur travail, c'est de fournir des solutions et de donner un débouché à cette contestation.
Vous me faites la transition parfaite. Pourquoi ? Parce qu'il y avait Sandrine Rousseau à cette marche et qu'elle a été interpellée par un gilet jaune. En lui disant, mais attendez, vous n'étiez pas présent quand nous, on était sur les ronds-points, quand on était en train de...
Je ne l'avais pas vu avant.
Vous ne l'avez pas vu ? Bah, regardez ce qu'il lui a dit. Le révolutionnaire des canapés.
Madame Rousseau, vous n'êtes pas trop gilet jaune, là, vous ne soutenez pas trop. On s'est fait éborner pour le pouvoir d'achat pour les travailleurs. Et on vous a pas beaucoup vu quand on s'est fait casser la gueule et éborner. Non, on vous a pas vu. Vous êtes une révolutionnaire des canapés et nous, on est vraiment dans la rue.
D'accord.
Et on vient pas pour Mélenchon, on vient pour chercher Macron.
D'accord.
Au revoir.
Et donc, bonne ambiance. Juste en train de dire quoi, pardon.
Elle paye 2 ans d'absence. 4 ans, c'était il y a 4 ans, les Gilets jaunes. Son absence pendant les Gilets jaunes. Et là, elle arrive, c'est de la récupération politique. Que sont en train de tenter de faire certains à gauche, Geoffroy Lejeune.
En fait, mon avis diverge de celui de Julien sur la...
C'est pour ça que vous êtes face à face.
Oui, c'est vrai. Sur la fin des Gilets
jaunes. Et j'arriverai à vous convaincre, j'en ai eu des... C'est plus dur que ça à convaincre.
Moi, j'ai fait comme vous. J'étais dans les manifestations justement pour comprendre, pour parler, etc. Et j'ai vu exactement ce que vous venez de décrire. On dit la même chose sur les Gilets jaunes en réalité, sauf que j'ai vu, et ça m'a fait de la peine, la France Insoumise à l'époque se greffer sur ce mouvement. Et vous avez dit, il n'y avait pas de...
Très marginalement. Fin, parce qu'au début, ils n'y croyaient pas. Mais ils ont eu un débat entre eux. Qu'ils y croyaient pas.
Vous avez raison. C'est pour ça que je dis, on dit la même chose. Moi, jusqu'à fin janvier, je date comme vous le moment où le mouvement bascule. C'est le moment où ils arrivent, où la France Insoumise arrive. Elle est dans toutes les manifestations et la plateforme revendicative est celle de la France Insoumise. Elle n'est pas majoritaire chez les Gilets jaunes et tout, mais c'est le RIC, c'est tous ces délires de Raquel Garrido qui arrivent à ce moment-là dans le débat. Ouais. Parce que,
je sais plus son nom là, celui qui est un ancien qui va jouer avec les militaires et tenter même une opération à l'opéra. Qui marche pas sur le RIC.
En tout cas, ce que je veux juste dire, c'est que c'est en effet c'est le début de la fin du mouvement. Et donc les Gilets jaunes reprochent à juste titre, enfin la récupération. Là, en l'espèce, ce qui m'amuse moi dans cet extrait de Sandrine Rousseau, c'est qu'en réalité, enfin ça fait du bien. Je dis pas que tous les gens de la manifestation pensent ça, mais ça fait du bien de temps en temps de voir quelqu'un qui a l'air d'être une vraie personne et qui a l'air d'être un manifestant qui vient là pour des vraies raisons, expliquer à Sandrine Rousseau ce que je crois être la vérité, c'est qu'en fait elle est en effet une figure médiatique complètement déconnectée qui représente en gros gros pas grand chose à part elle et ses 5 copains écolos du 13e arrondissement de Paris. Et ça fait un peu de bien de l'entendre parce que les thématiques portées, juste là-dessus de manière sérieuse, les thématiques portées par Sandrine Rousseau dans le débat public sont à des années-lumière, malgré leur poids médiatique, malgré l'importance qu'elle a prise, elle, dans le débat public, à des années-lumière des préoccupations des gens. Ce qui est grave, d'ailleurs, c'est qu'elle ait pris autant d'importance parce qu'en réalité, elle conditionne les esprits et probablement que la société va aller vers ces idées, mais pour l'instant, ça n'est pas le cas.
En 30 secondes, s'il vous plaît, Julien Drey, puisqu'après...
Je respecte Sandrine Rousseau comme je respecte tout intervenant politique.
Oui.
Je suis en total désaccord avec les 80% de ce qu'elle raconte. Y compris sur le fond, même sur le féminisme. Je ne suis pas un spécialiste de toutes les questions, mais je pense qu'elle représente un courant idéologique qui, d'après moi, est idéologiquement parlant très totalitaire dans sa logique d'uniformisation, etc. Mais bon, ça, c'est un autre débat politique. Maintenant, c'est vrai que les salariés, ils ont le sentiment qu'elle parle beaucoup de questions liées à l'écoféminisme et qu'elle ne parle pas de leurs revendications et de leurs revendications propres. Donc, ce conflit-là, il apparaît. Mon sentiment, c'est que les responsables politiques qui veulent toujours essayer de venir se faire voir dans les manifs en disant « moi, je suis là », etc. et tout, c'est pas, les gens, ils sont pas stupides. Ils regardent qui les défend vraiment et qui les défend pas.
La publicité, on revient dans un instant. Ce que je vous propose, c'est qu'on parle de cette crise des carburants. On verra plusieurs séquences des automobilistes en colère. Geoffroy de Roux-de-Bézieux, le président du MEDEF, a parlé de prise d'otages Français, des millions de Français qui sont pris en otage par le syndicat CGT. Gabriel Attal qui a également réagi. On parlera d'Emmanuel Macron avec cette une, je ne sais pas si vous avez lu le journal du dimanche, très belle une du JDD, la panne d'autorité. On en parle juste après la pub. 19h30 sur CNews, la deuxième mi-temps de Ça se dispute. Julien Drey, Geoffroy Lejeune ce soir. On fait le point sur l'information et on continue de parler de la grève et ses tensions dans les stations-service. On va écouter Geoffroy de Roux-de-Bézieux dans un instant. Mais avant, le point sur l'info.
2 ans jour pour jour après l'assassinat de Samuel Paty, Conflans-Sainte-Honorine lui rend hommage ce dimanche. Le 16 octobre 2020, ce professeur d'histoire-géographie était tué dans cette commune des Yvelines par un jeune radicalisé. Un autre hommage lui a été rendu ce matin dans la ville où il vivait, à Éragny-sur-Oise. Une femme tuée par arme blanche à Nantes. Les faits se sont déroulés en pleine rue ce matin. La victime, âgée de 47 ans, n'a pas pu être réanimée. Elle est décédée sur place. La maire de Nantes, Johanna Roland, assure que tout a été mis en œuvre pour retrouver l'auteur du crime. Et puis le Parti communiste chinois réuni pour sacrer à nouveau Xi Jinping. Il s'est exprimé aujourd'hui à l'ouverture du 20e congrès du parti. Le président chinois a souligné l'ascension de la Chine comme puissance mondiale. Au pouvoir depuis 2012, Xi Jinping, 69 ans, devrait être reconduit pour 5 ans.
Côté raffinerie, la CGT poursuit le mouvement de grève au moins jusqu'à mardi soir. Résultat, du côté des stations-service, c'est toujours la même galère. 4 stations sur 10 en Ile-de-France, par exemple, sont impactées. Regardez cette séquence et malheureusement, c'est ce triste scénario qui se répète tous les jours. Ces tensions entre automobilistes. Regardez. Du caractère, cette dame. Personne passe devant moi et tout le monde se recule. Écoutons Geoffroy Roux-de-Bézieux, président du MEDEF, qui parle de prise d'otage.
On voit bien que ça n'est pas une grève normale. Encore une fois, les revendications sociales peuvent être légitimes, mais le droit de grève a des limites. C'est, je dirais, le bien commun du pays.
Ce n'est pas une grève normale. La CGT prend les Français en otage, prend le pays en otage.
En tout cas, les 150 personnes des 5 raffineries totales, je crois qu'elles sont
6.
5, 6, pardon. Oui, eux prennent les Français en otage.
Prise d'otage ou pas?
Moi, je vois du petit lait là. Je suis dans le même. On a, On a le même prénom en plus avec Geoffroy Roux de Bézieux. Ouais, non, mais évidemment. Non, mais en fait, il y a vraiment une tentative aujourd'hui de la part de la gauche, mais à laquelle Julien vous participez d'ailleurs, d'essayer de faire croire que c'est Total qui est responsable de tout ça. J'entends que dans tout ce qui s'est passé, il y a à un moment donné une responsabilité de Total parce que les négociations ne sont pas arrivées à temps, etc., etc. Mais la vraie responsabilité, ce sont les salariés qui décident de bloquer les raffineries et la situation, on l'a subie à cause d'eux. C'est tout. Il y a rien d'autre à inventer en fait.
Mais ce qui est intéressant, c'est que avec une formule de politesse politique. Alors oui, c'est vrai, il y a des revendications, mais vous ne posez pas la question de savoir pourquoi ces revendications n'ont pas été prises en considération, pourquoi la direction Total n'a pas anticipé ce qui était en train de se passer, on a tout...
Tout ça, mais...
Vous êtes journaliste, vous savez...
Mais justement...
Est-ce que vous avez réussi à obtenir un interview du PDG de Total ?
Non mais alors, j'ai essayé à de nombreuses reprises.
Imaginez bien qu'il se fait discret.
C'est quand même extraordinaire. Vous dites la France est prise en otage, il y en a un qui est quand même correctement payé, c'est le moins qu'on puisse dire. C'est lui sauter.
Non, mais c'est quelqu'un qui est toujours discret par ailleurs. Il n'a pas attendu aujourd'hui pour être discret.
À quoi ça sert d'être patron si on se tait ?
Maintenant, juste une chose, c'est que depuis vendredi, vous ne pouvez plus tenir ce discours. Je veux entendre tout ça, etc. Mais depuis vendredi, depuis que la CGT a refusé, depuis que la CGT a refusé l'accord que les autres syndicats majoritaires ont accepté sur l'augmentation de 7%, depuis que la CGT a fait ça, elle a signé son crime. Ce qu'elle voulait, ce n'était pas une augmentation salariale sur la base d'ailleurs de l'inflation, ce qui est une énorme avancée parce que pour plein de raisons que je pourrais développer, c'est pas forcément une bonne chose pour l'économie si on augmente les salaires du niveau de l'inflation.
Non, ça c'est...
Peu importe, c'est pas le sujet. Depuis que la CGT a refusé 7% d'augmentation pour les salaires et qu'elle va encore plus loin en demandant 10%, quitte à bloquer le pays et à provoquer les scènes qu'on a vues avant avec des gens qui sont hors d'eux, depuis ce jour-là, elle a signé son crime. Elle ne veut pas arranger les choses.
Non, mais ce qui est intéressant, c'est que vous êtes très motivé contre la CGT.
Oui.
Alors là, je le vois. Là, vous voyez toute l'artillerie nécessaire. Alors que sur la direction de Total, voilà. Si vous me donnez raison jusqu'à vendredi, mais jusqu'à vendredi, je vous ai pas entendu mettre en cause la direction de Total. Et mettre en cause ce qui se passait.
J'étais déjà énervé sur le blocage.
Mais votre énervement, votre capacité qui est réelle à dénoncer un certain nombre de choses, vous auriez pu aussi, dans un premier temps, puisque vous me donnez raison, m'aider, je dirais, dans le débat en disant oui, c'est vrai, la direction de Total n'a pas fait son travail. Donc vous êtes moins crédible maintenant en vous en prenant à la CGT depuis vendredi, parce que justement, vous n'avez pas
parti. Parce que je prends tout.
Voilà.
En compte,
alors maintenant.
Mais il faut prendre en compte le fait qu'ils ont
On a convenu de quelque chose, je ne sais pas si on le fera, on va aller sur les barrages, puis comme ça vous allez faire votre propre expérience, vous allez voir que ce n'est pas 5 permanents de la CGT qui blottent les raffineries, c'est des salariés qui sont en colère, et je ne suis pas sûr d'ailleurs que la direction de la CGT de la chimie soit forcément convaincue qu'il faille continuer. Quand vous racontez son patron depuis 2 jours, vous voyez bien qu'il essaye de calmer la situation et de faire baisser, il n'est pas dans une radicalité, voilà. Bon, alors après, oui, il y a un calendrier, c'est-à-dire que la CGT...
Se rend compte peut-être qu'il abuse un peu.
Non, je pense qu'il a conscience qu'il y a une réalité, c'est que c'est pour beaucoup
de Français
la galère. Français de la galère, et que c'est terrible, et que c'est compliqué. Donc il a compris qu'il faut essayer... D'ailleurs, j'entendais un interview vendredi, hier en fin de journée, si on s'est lié à travers les lignes, on voyait qu'il disait, bon, grosso modo...
Mardi soir, c'est terminé.
Voilà, on fait un baroud d'honneur, parce qu'il faut laisser, parce qu'il y a de l'énervement, etc. et tout. Moi, si vous voulez, je vois bien qu'on puisse dire c'est énervant, etc. Mais la CGT, c'est un des problèmes, voilà, si vous me permettez. C'est ça, le problème de la société française. C'est que si on a un patronat qui ne veut pas discuter avec les syndicats comme il faudrait, et comme il ne respecte pas les syndicats,
mais c'est l'inverse,
et qu'à la première occasion venue, à chaque fois, il ressort... Vous savez, le discours de M. de Bézieux, ça fait 50 ans que j'entends ça. Ça fait 50 ans, ça prouve que je ne suis pas jeune, hein. Ça je le sais.
Mais il y a 50 ans, les syndicats étaient plus représentatifs.
D'accord, mais justement...
Aujourd'hui, peut-être que les patrons parlent un peu moins avec les syndicats parce qu'ils ne représentent rien.
Même quand ils étaient représentatifs.
9% aujourd'hui.
Vous allez retrouver, vous allez voir les archives, je m'excuse, vous allez voir. À l'inverse, d'autres pays qui sont des vraies démocraties sociales, dans lesquelles on joue le jeu, c'est-à-dire on discute en amont. La France est le seul pays, par exemple, où il n'y a pas de conférence salariale. Voilà, on pourrait avoir chaque année une conférence salariale. On aurait chaque année une conférence salariale, y compris qui rendrait compte au Parlement. Donc voilà la situation, voilà les branches où on progresse, voilà des branches où on ne progresse pas, voilà les investissements qu'il faut faire. Tout ça n'existe pas.
Emmanuel Macron, la contestation sociale, les grèves et les difficultés des Français affaiblissent le pouvoir exécutif jusqu'au plus haut sommet de l'État. Emmanuel Macron en une du journal du dimanche, la panne d'autorité avec un président, l'image est très forte, le regard fermé, groggy par les crises à répétition et ce sondage, toujours dans le JDD, a dû le mettre une nouvelle fois dans les cordes. 92% des Français sont inquiets au sujet de l'inflation. 73% des Français considèrent que le gouvernement doit agir et mieux agir contre l'inflation. 82% des Français jugent que le gouvernement n'en fait pas assez pour lutter contre l'inflation. Est-ce que c'était prévisible de voir un président de la République en aussi grande difficulté, Geoffroy ?
Oui et non. Enfin, non, mais c'était difficile. C'était difficile. Non, on pouvait le prévoir dans une mesure, c'est que en réalité, c'est l'élection présidentielle qui est fautive. Elle n'a pas joué son rôle habituel de catalyseur des tensions dans le pays. Elle s'est jouée sur d'autres sujets que ceux qu'elle aurait dû mettre en scène. Il a été réélu comme à chaque fois que quelqu'un est élu contre Marine Le Pen par défaut, parce que contre le fascisme, la haine, etc. Et en plus de ça, on a eu l'élection présidentielle dans un contexte de guerre en Ukraine qui a monopolisé tous les débats. Donc à la fin, tous ces sujets-là n'ont pas été traités. Par ailleurs, après, bon, je ne vais pas refaire le match du mois de septembre-octobre, mais les décisions sur l'énergie, qui sont pour le coup les siennes et celles de ses prédécesseurs, nous impactent directement. Pour toutes ces raisons, c'est prévisible de que les Français prennent conscience. En tout cas, c'est plutôt sain et bon signe que les Français aient pris conscience de tout ça. Maintenant, sur la question de l'autorité, moi, je trouve qu'il y a quelque chose d'encore pire que tout ça. C'est que, oui, il y a un manque d'autorité à la tête de ce pays, depuis assez longtemps d'ailleurs. Et ce que je trouve encore pire et ce qui rend la situation insupportable aujourd'hui, c'est qu'en plus le gouvernement sait faire preuve d'autoritarisme quand il le faut. C'est-à-dire que c'est très différent l'autorité et l'autoritarisme. L'autorité, c'est quelque chose d'assez naturel qui s'exerce de manière légitime, et l'autoritarisme c'est une crise, une bouffée fiévreuse qui tout à coup vous fait prendre des décisions ultra radicales, comme par exemple le confinement, le port du masque, l'interdiction d'aller dans les cafés.
Et le 49-3, c'est de l'autorité ou de l'autoritarisme?
En tout cas, c'est un aveu de faiblesse. Le 49-3, comme dit Nicolas Sarkozy m'avait expliqué ça une fois au moment de la loi travail. Il m'avait dit, ça vous fait. Non, mais on a quand même le droit de citer quelqu'un qui n'est pas du PS.
Évidemment. Non, mais je souris.
C'est quand même quelqu'un qui existe.
Oui, il m'avait expliqué. J'ai même dit que sur un conflit social de cette nature, il ne serait pas comporté de la même manière.
Ben voilà. Donc, en plus, ça nous met d'accord. Il m'avait expliqué au moment de la loi travail, de la loi El Khomri, que quand vous prenez le 49-3, ce que je crois lui d'ailleurs n'avait jamais utilisé, vous déplacez le débat de l'endroit où il doit se passer, c'est-à-dire le Parlement, à un endroit où il va quand même s'exprimer, qui devient la rue. Je pense que c'est ce qui risque de se passer.
Écoutons justement toutes les réactions politiques sur ce fameux 49-3. Autoritarisme, autorité, crise d'autorité. Vous allez nous répondre, Julien Drey, juste après avoir écouté ces guirlandes de réactions politiques.
Beaucoup de choses vont se passer parce que l'indéniable succès de cette marche donne du courage, donne donc envie d'agir, de se mobiliser. Et la secousse va aller en profondeur dans les institutions, puisque le 49-3 va être déployé, et que les Français, tout d'un coup, vont voir qu'il y a un rapport entre la brutalisation sociale du pays et sa brutalisation institutionnelle et démocratique. Tout ça va faire un tout.
Tout le monde sait qu'il va utiliser le 49-3 pour une raison très simple, c'est qu'il n'a pas de majorité pour voter son budget. Voilà, c'est un fait, c'est le résultat des élections législatives. Moi, ce qui me choque, ce n'est pas qu'ils utilisent tant le 49-3 qu'ils ne l'aient pas utilisé dès le départ. En réalité, ils vont sortir le 49-3 après nous avoir fait débattre pendant 8 ou 9 jours. Et ils vont passer un 49-3 et ils vont mettre un grand trait de plume sur tout ce qui a été voté.
Le 49-3, dans un contexte de majorité relative, serait plus une prise de risque qu'un passage en force. C'est quand même ça la réalité. Si les oppositions maintiennent leur position de dire « quoi qu'il arrive, on veut mettre en échec vos textes budgétaires », bah, on devra l'utiliser, et l'utiliser autant que nécessaire. Mais moi, vraiment, je veux insister sur un point, c'est qu'on ne peut pas se retrouver dans une situation où il n'y aurait pas de budget.
À votre faiblesse.
C'est toujours la faiblesse, mais qui décolle aussi du fait qu'ils n'ont pas de majorité à l'Assemblée nationale. Mais la vérité, c'est que ce 49-3, il n'est pas tellement fait contre l'opposition. Il est fait parce que la semaine dernière, à plusieurs reprises, le gouvernement s'est fait battre par le fait qu'un certain nombre de députés de sa propre majorité ont voté des amendements avec lesquels ils étaient en désaccord, notamment sur les impôts. Et donc ils sont très inquiets parce qu'ils ont le sentiment que dans leur majorité, il y a des lignes de fracture qui font qu'ils ne sont plus du tout certains d'arriver à s'en sortir. Donc le 49-3, c'est une sorte de mise au pied du mur des députés de la majorité en leur disant « vous avez pas le, il n'y a pas de liberté, voilà, c'est maintenant, c'est comme ça, point à la ligne. » Voilà. Alors après, il y a un autre débat qui est un débat institutionnel. Le 49-3, il découle de ce système présidentiel. Voilà, parce que dans les autres pays qui sont des démocraties parlementaires, il n'y a pas de 49-3. Donc si on discute des institutions, moi je pense depuis longtemps que la Ve République est un mauvais système politique, que cette élection présidentielle au suffrage universel est une catastrophe. Moi, mon modèle, c'est la démocratie anglaise, c'est la démocratie espagnole, c'est les démocraties parlementaires, italiennes, avec un problème sur le mode de scrutin. Avec un problème très simple sur l'Italie, c'est le problème de mode de scrutin. Mais vous rigolez sur l'Italie et la démocratie
anglaise,
c'est pas une bonne démocratie. les démocraties scandinaves. L'élection présidentielle, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est les principaux constitutionnalistes. Puisque vous cherchez, allez discuter avec Pierre Mazeaud, il va vous dire ce qu'il pense.
Autre
pour
règle.
Moi, c'est un des plus éminents constitutionnalistes. Il va vous dire ce qu'il pense de l'élection présidentielle du suffrage universel. Elle écrase tout le débat.
Mais c'est
elle,
pour...
c'est, elle, elle se
non, mais je trouve ça horrible.
Elle, tout le temps, et elle rend la politique. Vous savez, c'est le mal qui frappe notre système politique. C'est qu'elle obsède après
alors,
tout le personnel politique par l'idée d'être un jour président.
Non, mais c'est, voilà. La Ve République est agonisante, je vous concède ça. Pour des raisons, on pourrait, mais encore une fois, ce sera un débat un peu long, mais par contre, elle n'est pas viciée dans ses fondements, dans ses principes.
À cause de cette élection. Vous savez que le général de Gaulle, je vous raconte juste cette anecdote. Le général de Gaulle, au point de départ, il est contre l'élection du président de la République au suffrage universel.
Il veut remettre le roi. Donc.
Et comme... Non, il ne veut pas remettre le roi.
Si, il veut remettre le roi.
Non. C'est parce que Michel Debré lui explique que si on reste au système traditionnel, c'est-à-dire ça vote dans les deux assemblées, il va être battu par Poujade, si je me souviens bien, ou quelque chose comme ça. Et c'est ainsi que Michel Debré invente l'élection du suffrage inventé, met en place, et que le Gaulle dit « bon, on va le faire, mais vous savez, ce système, il n'est pas terrible. Après moi, peut-être qu'il faudrait l'enlever. »
Bon, vous êtes contre.
Ah mais moi ça me fait de la peine d'entendre.
Ça me fait de la peine
d'entendre, mais parce que vous êtes là, vous êtes français, vous prenez l'exemple de l'Angleterre. Alors trouvez-nous une reine dans ce cas-là. Trouvez-nous une.
La reine n'intervient en rien sur le plan politique.
Monarchie parlementaire.
Le Portugal, voilà. C'est une très bonne démocratie parlementaire. Et vous voyez, le président de la République au Portugal, il est élu au suffrage universel, mais il est le gardien des institutions. Point à la ligne. Et le Portugal, c'est un système qui fonctionne très bien.
Mais vous savez que ça devrait fonctionner comme ça. C'est normalement, selon l'article 21 de la Constitution, le Premier ministre qui dirige et conduit la politique de la nation. Bien sûr que vous savez
très
bien.
Que c'est pas ça, comme c'est pas ça la Ve République.
C'est exactement ça.
C'est d'ailleurs pour ça que Sarkozy comme François Hollande disent qu'ils voudraient supprimer le poste de Premier ministre pour que le président de la République ait tout.
Mais
c'est un système présidentiel à l'américaine. Ça n'a rien à voir avec le système portugais.
Quand Sarkozy dit ça, il n'a rien compris à ce qui doit se passer. Bon, mais le général de Gaulle, lui, ne veut pas se mêler de politique au quotidien, ne veut pas. Mais si. Justement, c'est pour ça que je suis d'accord avec vous pour dire qu'elle est agonisante, mais par contre, elle n'est pas viciée dans ses principes.
Si, je pense que...
parce que c'est dimanche qu'on continue ce débat, mais on a tellement
de choses.
On
fera un débat
comme il nous reste 5 minutes, je veux qu'on parle de l'Iran.
Sur l'autoritarisme.
Autoritarisme,
je pense qu'il y a une vraie crise, qui est ce qu'on appelle la crise du deuxième quinquennat. C'est-à-dire que vous avez un président de la République qui est obsédé par sa réélection, donc il concentre toute son énergie sur sa réélection, mais après, il ne sait pas très bien pourquoi il s'est fait réélire. Et on est dans ce moment particulier.
C'est très bon ça.
Le problème date de la réforme de 2008, hein, ça date pas de 65.
Mais on va pas vous accorder là-dessus. Peut-être qu'on va réussir à trouver un terrain d'entente sur l'Iran. Voilà un mois que le peuple iranien se révolte contre la République islamique, un mois jour pour jour, après la mort de Mahsa Amini, arrêtée par la police des mœurs. Hier, encore des heurts justement ont éclaté à la prison d'Evin à Téhéran. Au moins 4 détenus sont morts et une soixantaine ont été blessés. Alors ce qui est intéressant, c'est que la prison d'Evin, elle est...
prison intellectuelle.
Exactement. C'est l'université, elle est surnommée l'université d'Evin, car de nombreux intellectuels y sont détenus. Qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce que la France doit faire, Julien Drey, pour soutenir ce peuple qui se révolte?
Bon, hier, il s'est passé quelque chose de très particulier. Il y a eu d'abord des incidents dans la prison. Les passes d'Aram sont arrivées. Et la ville de Téhéran a appris ce qui était en train de se passer. Donc vous avez eu des milliers de voitures qui ont convergé.
C'est ce qu'on voit à l'image.
Et qui ont empêché les passes d'Aram de se livrer au massacre auquel ils s'apprêtaient à se livrer, face justement en utilisant soi-disant la révolte, etc. Donc il y a eu des morts, certainement plus que ce qu'ils disent, mais il y a eu quand même la ville de Téhéran, et on a eu des images extraordinaires de jeunes filles qui montaient sur les voitures, etc. Mais il n'y a pas qu'à Téhéran. Il y a des manifestations partout. Pour l'instant, le problème des manifestants, c'est qu'ils ont peur que s'ils descendent en grand cortège, que ce soit la tire au pigeon des passes d'Aram. Voilà. Mais des fractures apparaissent à l'intérieur du régime. C'est pour ça que l'affaire n'est pas... J'entends des gens me disent « Bon, ça y est, c'est fini. » Elle est loin d'être finie. Il y a des régions entières où l'armée, les passes d'Aram, parce que l'armée, elle se tient un peu à l'écart pour l'instant. Mais c'est les passes d'Aram qui sont les forces de répression. Et il n'est pas impossible d'ailleurs qu'il y ait des conflits à l'intérieur de l'institution entre l'armée et... Voilà. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, il faut amplifier la solidarité. Il faut en parler, leur donner le sentiment qu'ils ne sont pas tout seuls. Rompre un certain nombre de relations économiques, diplomatiques. Voilà, on demandait aux Nations Unies de se prononcer. Il faut qu'il y ait une solidarité internationale. Ils ont le sentiment, d'ailleurs, les messages qu'ils envoient par SMS et par toutes les ONG et tout, c'est de dire ne nous laissez pas seuls. Parlez, isolez les ayatollahs.
Je crois le jeune.
J'écoute avec attention Julien Drey. Moi, je suis très, depuis le début, très mesuré sur cette affaire parce que je ne me rends pas du tout compte de comment ça peut tourner. C'est-à-dire que l'enthousiasme donne envie de croire qu'il se passe quelque chose de très profond et en même temps, la force de répression de ce régime est hallucinante. Donc je suis absolument incapable de dire comment ça va tourner. La question que vous posez, elle est très compliquée parce que qu'est-ce qu'on peut faire, nous, la France? Parce que oui, parler, oui, les intellectuels, oui, les artistes, oui, l'ONU, etc. Bien, non, mais j'entends que ce soit extrêmement important pour les gens sur place qui se révoltent. Que peut faire la France en tant que France sur le plan diplomatique ou
si vous permettez, deux secondes. L'Iran est en train de négocier en ce moment. Il y a une grande négociation internationale, y compris sur son potentiel nucléaire. Elle a besoin d'avoir une bonne image à l'extérieur pour pouvoir montrer, faire patte blanche. Même si moi, je ne crois pas une seule seconde à patte blanche des ayatollahs. Et que je pense qu'il ne faut pas signer d'accord avec eux là-dessus. Mais elle a besoin d'apaiser, de dire, voyez, on est un régime, finalement, maintenant. Donc plus on parlera des manifestations, plus on mettra en avant tout ce qui est en train de se passer, plus le régime sera en difficulté. Et moins il y aura d'accord, et je pense qu'il vaut mieux pas qu'il y en ait.
Écoutez, c'était un plaisir de participer à cette émission avec vous ce dimanche et même tout au long du week-end. Je vous remercie. Vous allez passer un bon dimanche soir. Ce que je vous propose, c'est que vous regardez un peu du match classico, mais surtout vous regardez CNews, parce que là, dans un instant, c'est Yvan Rioufol. Puis ensuite, il y a l'info du monde. Et puis ensuite, il y a Soir Info Week-end à 23h. Bon, un prono pour PSG-OM.
J'en sais rien.
Oh là là, non, c'est rapide. Moi, je vous dis 2-0 pour Paris.
Mais non, j'étais comme tout le monde. Au début, j'ai cru que l'arrivée de Galtier et que le PSG allait sortir de ses turpitudes.
Ouais.
Et c'est vrai que pour l'instant, alors il semblerait qu'il va changer de tactique.
Je ne sais pas. Moi, je dis 2-0 pour Paris. Voilà, stop, c'est rapide.
Donc, peut-être que ça
va partir. Deux partout, 2-0. Allez.
Ah, peut-être qu'un petit point. Moi, je donne à Paris quand même.
Allez, Yvan Rioufol dans un instant.
Treat mom to healthy, glowing skin with Osea's limited edition skincare sets. Osea has been making clean, seaweed-infused products for nearly 30 years. Their Golden Glow body set includes 3 clinically proven bestsellers for smooth, glowing skin, while the Glow and Go facial set provides spa-level results at home. Both sets come in giftable boxes with savings up to $48 and free shipping for a limited time. For 10% off your first order site-wide, go to oseamalibu.com and use code MOM.